Leclerc Communication vous rappelle que tout ce qui passe mode revient inévitablement au goût du jour. Le disco avec Daft Punk. Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the? Oh!
Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink-182. Puis même les coupes longueuilles puis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Puis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi. Ouais, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même, moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Bon lundi soir, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, comme à chaque lundi, c'est Maître Marc Bellemare qui est avec nous. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous avez passé un beau week-end?
Ah, absolument, oui. J'ai fait du ski, j'ai pris l'air et là je suis pompé, plein d'énergie pour parler aux auditeurs de Marceau.
Maître Bellemare, j'en profite pour parler de ces sujets-là avec vous, puisque je sais que vous suivez la politique, vous avez été un politicien aussi, vous êtes très à l'affût d'un peu ce qui se passe au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. C'est incroyable de voir à quel point Donald Trump il y a un branle-bas de combat actuellement sur les tarifs douaniers. Donald Trump qui disait « Oui, mais là, le Canada, le Mexique, au niveau de la sécurité, c'est pas suffisant. » doivent surveiller leurs frontières. Il n'était même pas élu président des États-Unis que les gens au Canada, que ce soit les politiciens fédéraux, provinciaux, étaient très alarmés là, par rapport à ce qui se passait. Ils disaient oui, faut surveiller nos frontières. On va mettre plus de drones, on va mettre plus de patrouilles. Le fentanyl passe, ça a de l'air, vers les États-Unis du Canada en provenance du port de Vancouver. Donc, on va essayer de faire en notre pouvoir pour que ça cesse, puis que Donald Trump ait ce qu'il veut. Puis visiblement, c'est un trouble fait Donald Trump, mais ça fait en sorte qu'on se prend en main nous-mêmes. On aurait peut-être dû le faire avant que Donald Trump nous le dise, mais je trouve que c'est un individu qui brasse comme pas possible. Là. Puis la politique, Maître Bellemare, on dit souvent, ah, des fois c'est plate la politique, mais bien que ce soit négatif ces temps-ci avec Donald Trump, il se passe quelque chose. On n'a pas le choix de s'en intéresser.
Oui, alors les médias québécois peuvent dire merci à Donald Trump qui leur fait faire de la copie, des articles. Je remarque que dans certains quotidiens, des fois, tu as 3, 4, 5 chroniqueurs la même journée qui crachent leur fiel sur Donald Trump puis qui disent que c'est un ci puis que c'est un ça. Donald Trump a été élu pour s'occuper de son pays. Il a été élu pour remettre l'économie américaine en place. Il veut créer des jobs aux États-Unis. Et pour créer des jobs aux États-Unis, ben il faut que les Américains fassent le plus de choses possible pour eux. C'est un pays immense, hein, c'est 350 millions, quasiment 375 millions d'habitants. Alors, c'est l'équivalent de l'Europe au complet. Mm-hmm. Alors, ils sont capables de faire bien des choses par eux-mêmes. Ils n'ont pas nécessairement besoin des autres, mais ils ont une balance commerciale déficitaire, en ce sens qu'ils achètent beaucoup plus à l'étranger que l'étranger achète des Américains. Et Donald Trump veut corriger cette situation-là en faisant en sorte que les Américains n'achètent pas plus que ce que les pays étrangers achètent des produits américains. Et ça veut dire une balance commerciale qui serait équilibrée. C'est-à-dire que donnant, tu achètes un pot de jus d'orange de la Floride et puis les Américains achètent un peu de bois du Québec. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et il y a déjà des tarifs important, comme le bois, je pense que c'est 14,5% depuis 2022 qui avait été imposé par M. Biden pour le bois canadien, parce qu'il disait que le bois canadien était subventionné par l'État. On sait qu'ici, le gouvernement est partout, il subventionne à peu près n'importe quoi, l'agriculture, le bois, les matières premières et l'extraction, ils confèrent des droits de coupe aux compagnies forestières pour des peanuts. Alors, les Américains considèrent que c'est une subvention, un support de l'État qui est déloyal. Fait qu'ils veulent faire le ménage là-dedans. Puis Trump a été élu pour ça avec 53% du vote populaire. Alors, il n'y a personne qui peut douter de la légitimité de Donald Trump. Il y a une majorité au Congrès, une majorité au Sénat, puis une majorité dans le vote populaire. Fait que c'est historique, la victoire de Donald Trump. Puis lui, ça donne qu'il respecte ses promesses. Fait qu'il veut, Il veut que les Américains créent des emplois. Fait que c'est sûr que si, par exemple, dans l'automobile, s'il y a des tarifs sur l'automobile, puis qui fait en sorte que les Ontariens ont plus de difficultés à vendre les autos fabriquées au Canada, là-bas, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur l'industrie automobile en Ontario, puis le pétrole en Alberta. Puis ici au Québec, c'est surtout les matières premières, l'aluminium, le bois, tout ça. Alors, les priorités des provinces sont différentes selon les régions. On n'a pas les mêmes priorités que l'Alberta. Ici, du pétrole, on n'en a pas. Puis l'Alberta n'a pas beaucoup de bois.
Mais en fait, ce que Trump veut, c'est que les entreprises qui bâtissent des voitures et qui sont au Canada viennent s'établir aux États-Unis pour justement pas être impactées par ce fameux 25 %. Mais il y a quelque chose que je trouve somme toute positif. Là, il y en a qui vont dire, Yann, et que j'exagère pas, mais je pense que je suis pas mal sur la coche, là. Ça va peut-être nous permettre de se rendre compte à quel point on est dépendant des Américains, puis peut-être commencer à se regarder notre nombril à nous autres pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer nos frontières. Est-ce que si jamais on a un conflit armé avec un autre pays, est-ce que nos soldats canadiens sont prêts à faire la guerre? Est-ce qu'ils ont l'équipement? Est-ce qu'on est capable de protéger nos frontières? J'ai l'impression que ça, on va devoir en prendre compte, là. Surveiller le Nord, on le fait pas assez bien, surveiller le Nord, alors que c'est nos ressources qui sont là. Puis très, très souvent, à la grandeur du Canada, au Nord, ben on est un peu agressé parce qu'il y a des Chinois qui passent là, il y a les Russes qui passent là, les Américains passent par là une fois de temps en temps. Puis on n'est jamais à l'abri d'un moment donné qu'il y en ait un pays qui vienne déposer un drapeau, là. On n'est jamais à cet abri-là, puis on a toujours compté sur les Américains pour nous défendre comme si les Américains c'était notre grand frère. Bien, avec Donald Trump, on se rend compte que les Américains ne sont pas notre grand frère, puis on doit se prendre en main. Il y a ça de positif, Maître Bellemare. À mes yeux, à
Oui,
moi,
c'est
dis-moi.
ça. On est comme, je sais pas, un grand garçon de 28 ans qui colle à la maison, puis qui ne se trouve pas de loyer, puis qui prend le char de sa mère, puis qui occupe la maison de son père, puis qui ne se prend pas en main. Puis à un moment donné, les parents disent, mais écoute, on est tanné de payer, nous autres, on a des obligations aussi, fait que tu vas faire ta part, puis tu vas payer ça, puis tu vas payer ça. Puis là, la facture vient d'augmenter parce que ça correspond au coût réel. On est un peu comme ça. On a têté l'économie américaine depuis 150 ans. Puis là, les Américains disent, ben là, vous allez arrêter d'être têteux, puis vous allez être autonome, puis vous allez développer vos ressources naturelles, ce que vous faites presque pas, parce qu'ici, à chaque fois qu'on met une pelle dans terre ou qu'on essaye de driller quelque chose, il y a un groupe écologiste qui empêche le projet. GNL au Saguenay est un bel exemple. Il y a des projets en Gaspésie qui ont avorté pour des raisons particulières. Moi, les gens de Gaspésie me disaient que les projets miniers en Gaspésie, pas loin de Gaspé, avaient avorté parce qu'il y avait une coupe de résidents de la région de Montréal, de la région de Québec, des vacanciers, là, des gens qui achètent des maisons secondaires là-bas, qui s'opposaient, mais les locaux étaient d'accord avec les projets. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on exploite nos ressources naturelles, plus que ça, qu'on les exploite ici, qu'on transforme nos minerais ici, qu'on soit un pays comme les autres et qu'on arrête de dépendre de l'économie américaine, puis qu'on paye les frais, comme tu me parlais de l'armée tantôt, on paye, je pense, c'est 1,4, 1,2, 1,4 % de notre PIB pour l'armée, alors qu'on a signé avec l'OTAN, comme quoi on s'engageait à mettre 2 % de notre PIB, puis Donald Trump parle d'augmenter ça à 5 % parce que ça prend des sous-marins, ça prend des armes de combat, ça prend des bateaux, ça prend des avions, puis on est à quasiment des années 60 dans notre développement militaire. Fait que ça, c'est vrai. Il nous met ça d'en face. Puis là, on chiale, puis on bougonne, puis on essaie de voir comment on va pouvoir riposter. Moi, je pense qu'on a à se regarder dans le miroir, puis à développer notre économie beaucoup plus que ça, moins de bureaucratie, moins de fonctionnaires, contrôler notre dette. Puis j'écoute là Carney au niveau des libéraux, j'écoute le NPD, j'écoute le Bloc, j'écoute même la CAQ. Puis tout le monde dit on va faire des mesures, mais il n'y a personne qui dit on va contrôler notre dette, on va diminuer nos dépenses, on va diminuer notre
On
bureaucratie.
va se
C'est
prendre
ça
en
le
main.
problème.
Ouais. Ouais, je pensais me bagarrer un peu avec vous sur ce sujet-là, mais je vois visiblement que vous êtes un peu du même avis. C'est qu'à un moment donné, faut qu'on quitte notre nid puis qu'on soit capable de voler de nos propres ailes. Puis peut-être, si on veut attirer des entreprises chez nous, peut-être être un moins un enfer fiscal, parce qu'on parle beaucoup des paradis fiscaux là, depuis des décennies, en disant « Ah, c'est mauvais ça, les paradis fiscaux et tout ça », mais si les paradis fiscaux existent parce qu'il y a des enfers fiscaux qui existent. Puis le Canada est un enfer fiscal pour un entrepreneur. J'ai énormément d'entrepreneurs autour de moi, puis vous êtes un entrepreneur aussi par le fait même. C'est compliqué de faire de la business au Canada. C'est compliqué de faire de la business au Québec. Faut se prendre en main puis devenir tellement attrayant que toutes les multinationales vont dire « Bien, si on a un endroit dans le monde où on veut avoir un deuxième bureau, bien, c'est au Canada que ça se passe. Ça va être au Québec que ça se passe parce que c'est extrêmement dynamique. Les syndicats, ils font pas fermer les entreprises. Au contraire, travaillent avec l'employeur pour avoir leur juste part des choses. On a besoin de ça. Puis le coup de pied dans le cul qui est en train de nous donner le grand orange, bien, il faut le prendre puis de manière positive. » On n'aura pas le choix, on est rendu là, tout le temps dépendre des États-Unis. À un moment donné, on a un premier ministre, je ne sais pas si vous l'avez entendu la semaine dernière, là, qui répond à Donald Trump en disant « Ben là, nous, on ne vous enverra pas notre sirop d'érable. » Simonac, elle se défend avec le sirop d'érable, c'est épouvantable.
Ben il y en a, ils ont tout, les Américains. Ouais, le sirop d'érable, il y en a dans le Vermont, dans le Maine. Il y en a des érables aussi. Ouais, c'est pas juste les États du Nord, il y en a des érables.
Dans le Maine, là, il y a énormément de beaucerons qui étaient tellement écœurés de se faire achaler par le syndicat de l'UPA qui ont décidé d'aller s'acheter des terres dans le Maine. Donc, c'est des beaucerons qui sont dans le Maine puis exploitent des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir produire du sirop d'érable qui est américain. Donc, ils se libèrent un peu là, de la fameuse frontière canadienne, même si c'est des beaucerons. Les beaucerons sont un bel exemple d'une gang où ils étaient assez loin de Québec, assez loin de Montréal, assez loin des États-Unis. Ben, en fait, ils sont sur la frontière, mais on va se le dire, il y a un grand bois. Se sont pris en main. Puis c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs en Beauce. Ils ont l'esprit entrepreneurial. Bien, si le Québec puis si le Canada pourraient prendre exemple de ce qui se passe avec Trump, où là, on est comme pogné, tout le monde a la panique. Daniel Smith se défend avec son pétrole, puis elle le fait très bien, soit dit en passant. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler dans les prochaines années, puis peut-être une future première ministre du Canada. On va se le souhaiter. Puis on voit la faiblesse de Donald Trump, de François Legault, qui, lui, essaye de se défendre un peu avec son sirop d'érable. On n'achètera pas de jus d'orange. C'est très faible, là, ce qu'on a comme politicien actuellement au Québec. C'est très inquiétant. Il faut se prendre en main. Puis je regardais ce qui se mentionne dans les médias depuis quelques jours. T'sais. On va voir des Floridiens, donc des Québécois qui passent 6 mois en Floride. Puis on leur dit, là, Trump, il est méchant. Là, tu vas-tu quitter les États-Unis? Puis plus souvent qu'autrement, on rencontre des gens qui disent, ah oui, moi, je vais quitter les États-Unis. Je reviens vers Québec ou je vais aller peut-être vers l'Amérique du Sud ou peut-être au Mexique, tiens. Puis ce matin, je lisais un article qui date déjà de quelques jours, là, mais où le gars dit « Moi, vous m'enlèverez pas ma Floride. Je suis bien ici. Je bougerai pas. J'ai passé la moitié de ma vie presque ici. » C'est un retraité. C'est un gars qui vient du Québec. Puis lui, ben, il dit « Moi, Trump, ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, ça me touche pas. Tout ce que je veux, c'est avoir une qualité de vie. » Puis je pense qu'avoir une qualité de vie, là, Maître Bellemare, c'est ce qu'on souhaite tous, qu'on soit Canadien ou Américain. On veut juste la maudite paix.
Bien, c'est ça que, tu sais, on va nous présenter dans l'actualité. Je regarde le Journal de Québec, Soleil, La Presse, le Radio-Canada. On nous présente le gars qui n'est pas content, qui est dans sa roulotte à Allendale ou à Hollywood, Floride. Puis qui est fâché parce que l'inflation est importante, puis qu'il veut revenir au Québec. Alors, il peut bien revenir au Québec s'il veut. Peut-être qu'il pense qu'il n'y a pas d'inflation au Québec, puis qu'il cite tout le monde, c'est le paradis, puis qu'on a des logements, puis que c'est abordable, puis que le prix de l'essence est abordable, puis que l'épicerie est abordable. Alors, l'inflation, c'est occidental, c'est mondial. Il y en a partout. Il y a des augmentations de coûts. Certainement qu'en Floride, il y en a parce que notre dollar est à terre. On est rendu à 70 cents, même
ouais,
pas.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est sûr que le taux de change est important. Maintenant, si tu t'en vas au Mexique, je suis pas sûr que ça va vraiment être beaucoup plus avantageux que ça. Il n'y a pas nécessairement les mêmes conditions. Il faut comprendre que la Floride, c'est un État qui donne des bons services de santé. Si tu fais un infarctus, c'est sûr que ça va te coûter un bras, là. Mais tu as des hôpitaux à 2 coins de rue, tu as des cliniques privées à 3 coins de rue, tu as des épiceries, tu as un système de pompiers, tu as un système de police, tu as une sécurité abordable. T'as une température particulièrement belle. Quand il fait 22 à Miami, il fait moins 25 ici. Alors, c'est sûr que tu peux aller dans d'autres pays, en République dominicaine, puis tout ça, mais tu vas avoir moins de services par rapport à ce que la Floride peut te donner.
Ouais.
Maintenant, quant au fait que certains n'aiment pas Donald Trump, puis moi, je m'en vais parce que Trump, il impose des tarifs, puis ici, puis ça, bien, ça ne change pas grand-chose au niveau de la température en Floride. Ce n'est pas Donald Trump qui va
Non.
commander un sunshine de 24 degrés
Ouais.
mardi matin en Floride, là. Tu sais, c'est pas lui qui coordonne la température. La Floride est un État très républicain, très favorable à Trump. Peut-être que des fois, ça peut un peu surprendre. Il y a quelqu'un qui me racontait il n'y a pas longtemps qu'il est allé à Miami et qui avait fait un tour aux Everglades, des marécages, et qu'il y avait un Américain qui était là puis qui avait dit pourquoi vous ne voulez pas être Américain? Parce que l'Américain ne comprenait pas que le Canada ne veuille pas être Américain.
Ben pour lui, l'Américain, l'Amérique, c'est les États-Unis,
C'est le paradis.
c'est le meilleur pays au monde.
C'est le paradis.
Ouais.
Puis lui, il est content. Il a une économie florissante, beau climat, des autoroutes partout, des jobs partout, plein emploi. Il ne comprenait pas que les Canadiens ne veuillent pas être Américains. Alors, tu vois qu'il y a quand même un clivage important entre les deux pays. C'est sûr que le Canada, bon, alors qualité de vie, grands espaces, etc., mais. Tu sais, je regarde les statistiques chez les jeunes de 25-30 ans. Il y en a beaucoup qui diraient, oui, moi, je veux être américain. T'sais. Alors, attention, là, la génération montante, là, moi, j'ai un fils de 25 ans, puis j'ai une fille de 23 ans, puis eux autres, ils ne sont pas fermés pantoute à cette idée-là. Ils ne sont pas nécessairement pour, ils ne sont pas nécessairement contre, mais ils ne sont pas aussi radicalement contre que les gens de 60-70 ans. Les jeunes ont voté Trump aux États-Unis en quantité importante. Les jeunes au Canada sont partisans du Parti conservateur. Ils sont beaucoup à droite. Et pourquoi ils sont beaucoup à droite? C'est parce qu'ils sont écœurés de payer des impôts. Puis ils sont écœurés de voir une dette accumulée parce que les 60, 70 ans comme moi, là, nous autres, probablement qu'on ne la paiera pas beaucoup, cette dette-là. Mais eux autres, ils voient le compte de banque, ils voient le déficit monter, puis ils se disent, moi, j'ai 25 ans. À 50 ans, je vais devoir combien sur cette dette-là que les plus vieux vont avoir accumulé sur mon dos? Alors, il faut qu'on se prenne en charge, puis il faut qu'on fasse un certain virage à droite en termes de finances publiques, qu'on arrête de payer, qu'on s'occupe de notre dette. Puis je regarde l'actualité en général. Il n'y a pas très longtemps, la presse avec Paul Arcan avait sorti une chronique, une espèce de, comme de reportage qui parlait de la chambre, je pense, c'est 800 ou 614 à Saint-Hyacinthe. Qui disait qu'il y avait une chambre où une femme était morte dans des conditions incroyables, c'était pas peinturé, ça c'était comme une espèce de chambre d'hôpital du tiers-monde, puis c'était bien effrayant. Mais moi, j'aime bien quand on critique le système puis qu'on dit qu'il y a des chambres de marde dans les hôpitaux du Québec, mais j'aime ça aussi des gens, des fois, qui proposent des solutions. Alors, comment on fait pour la rénover, la chambre 614 à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe? On arrête de payer les criminels de la route en prison? On arrête de payer les assistés sociaux aptes au travail de 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de payer pour ci, puis pour ça, puis on diminue un petit peu la couverture des programmes sociaux au Québec, au Canada. Je ne sais pas, mais des solutions, ça existe. Puis souvent, nos chroniqueurs qui présentent des gens mal pris, puis des gens malades, puis c'est bien triste, là, des gens malades qui n'ont pas, ils ont pas de soins, puis qui n'ont pas de docteur. Je le sais qu'il y en a un problème avec notre système de santé, mais les solutions, ils sont où? Les solutions, c'est peut-être de dépenser en fonction de l'argent qu'on a, puis de couper dans des services qui ne sont pas essentiels, comme ce que je viens de te dire, nos couvertures sociales. Moi, je n'en reviens pas payer à un gars de 32 ans, apte au travail, le payer sur l'aide sociale. Pourquoi on fait ça, là? Pourquoi on fait ça comme société? Il y en a des centaines de milliers qu'on paye, des aptes au travail, des grands gars de 6 pieds 2. Aptes au travail, qui n'ont pas de job, on paye du bien-être social à ces gens-là, de
Ouais, ben,
génération en génération. Il n'y a jamais un gouvernement qui s'est intéressé à ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir leur vote. Alors, c'est un des secteurs dans lequel on pourrait couper pour avoir des docteurs, puis pour avoir des hôpitaux qui ont un peu plus d'allure. Je donne ça un exemple, mais on n'a jamais de solution. On a toujours des problèmes, mais nos chroniqueurs arrivent rarement avec des solutions financières, puis nos gouvernements n'en ont jamais. Eux autres, tout ce qu'ils promettent, c'est des dépenses, des dépenses, des dépenses. J'écoutais Pierre Poilievre en entrevue à l'Infoman la semaine passée qui disait, oui, je disais, on a tendance à penser que le gouvernement qui dépense le plus dans un programme, par exemple, on met 40 milliards, puis il y a un gouvernement qui arrive, il dit, moi, je vais mettre 50 milliards. On a tendance à penser que parce qu'on met plus d'argent, c'est plus efficace, puis il y a plus de performance. C'est pas vrai, là. Pas parce que tu mets plus de fonctionnaires que tu auras nécessairement plus de performances. Ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, pas nécessairement de dépenses additionnelles.
Ah, c'est plus de 100 000 fonctionnaires qui se sont ajoutés au réseau au Québec depuis que François Legault est au pouvoir. D'ailleurs, en 2017, je revoyais la semaine dernière une vidéo où François Legault disait que lorsqu'il allait être au pouvoir, bien, il allait couper dans la fonction publique, alors que depuis qu'il est au pouvoir, la fonction publique a grandement augmenté. Mais on ne voit pas la différence dans nos services. Au contraire, des services ont été coupés. Il y a des services qui sont encore plus longs qu'avant. Alors qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires. C'est pas une critique à leur égard, là. C'est juste le fait que techniquement, si tu embauches plus de gens, c'est supposé mieux aller, là. Et c'est pas le cas. Là, je vois dans les derniers jours qu'on a coupé en santé, alors que le système de santé, ça va pas nécessairement bien. Chaudière-Appalaches y a passé, on a coupé des infirmières. Même affaire pour ce qui est de Québec, où on a coupé des infirmiers, des infirmières. Puis là, on nous dit, ouais, mais c'est des postes qui étaient vacants, qui avaient pas été encore remplacé, mais n'en demeure pas moins que si les postes existaient, c'est parce qu'ils devaient servir à quelque chose si on avait trouvé quelqu'un à ce moment-là. Le coup de pied dans le cul que Donald Trump est en train de donner, là, ça va faire en sorte qu'on va essayer de regarder dans notre propre cours qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, comment on peut être bon juste entre nous, comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait, avec les autres provinces, échanger des produits peut-être qu'on n'a pas, qu'on trouvait auparavant aux États-Unis, puis que là, ben, notre voisin serait capable de nous le fournir, puis on n'aurait plus besoin, en fait, du moins le moins possible, des États-Unis. Il y a quelque chose de... C'est dramatique ce qui arrive là, pour certains, parce qu'il y a des gens qui ont peur, des pertes d'emploi et tout ça, mais de l'autre côté, c'est une roue qui tourne, puis là, faut se sortir de la maison. Ça fait des années qu'on est dans la maison, avec les parents qui payent, ça c'est les États-Unis, puis là, ben, faut voler de nos propres ailes, puis j'ai l'impression que ça va être positif, Maître Bellemare. D'ici 5 ans, 10 ans, on va revenir en arrière, on va dire, on se souvient-tu quand Trump a commencé à faire ses menaces, à quel point il voulait nous annexer et tout ça. Je veux vous poser une question, Maître Bellemare, est-ce que, parce que je sais que pendant le temps des fêtes, vous êtes allé jaser avec les gens aux États-Unis. Bon, Donald Trump n'avait pas été encore assermenté à ce moment-là, mais est-ce qu'on parlait beaucoup de politique américaine? Est-ce que les Américains ont tendance à parler de la présidence tant que ça? Parce que nous, au Québec, la politique prend énormément de place, que ce soit la politique municipale, provinciale ou encore fédérale. Mais quand je vais aux États-Unis ou quand je vais faire un tour en voyage au Mexique puis je jase avec des Américains, j'aime bien ça, le jaser, surtout les gens du Texas, soit dit en passant, eux, ils parlent pas nécessairement de politique, là. C'est pas quelque chose qui les touche vraiment, là.
Oui, ils ne parlent pas nécessairement de politique, mais ils sont, en tout cas, moi, c'est sur la Floride que je connais particulièrement bien. Et je peux te dire que c'est un des 4 États où il y a le plus d'immigrants illégaux. Alors, ils ne parleront pas nécessairement de politique, mais ils vont parler de l'immigration illégale. Parce que la Floride, la Californie, le Texas et l'État de New York sont les 4 États où il y a la moitié des immigrants illégaux. On estime qu'il y en a entre 11 et 14 millions aux États-Unis. Mettons qu'il y en a 14 millions. Il y en a qui disent 21 millions. J'écoutais Fox là, la semaine passée, Fox News, qui disait qu'il y avait 21 millions. Peut-être un peu exagéré. Mettons qu'il y en a 15 millions. Il y en a la moitié qui sont dans ces 4 États-là. Fait que c'est sûr, si tu connais le Texas, les Texans sont absolument à bout là, de voir rentrer des immigrants illégaux. Ils n'ont pas de statut. Ils ont passé par je ne sais pas trop quel chemin, la nuit, ils se sont pas fait prendre, puis ils ont réussi à passer là-bas. Et ces gens-là, évidemment, ont des enfants, etc., ils les inscrivent à l'école. Bon, et on dit que en Floride, il y en a beaucoup aussi. Puis bien sûr, les États frontaliers, les États par lesquels c'est plus facile de passer par la mer ou par la terre. La Floride, évidemment, c'est surtout par la mer. Le Texas, c'est par la terre. Alors, eux autres sont préoccupés par la question de l'immigration. Puis Trump a dit qu'il allait régler ça de façon assez radicale, qu'il allait faire une déportation massive, qu'il allait retourner chez eux les immigrants illégaux. En tout cas, il va peut-être être capable de le faire pour 3 ou 4 millions. Moi, je pense bien qu'il ne sera jamais capable de le faire pour la totalité des immigrants illégaux. Mais c'est déjà commencé. Puis je pense que le vice-président américain, Julie Vance, a dit qu'il allait commencer par 1 million, puis après ça, on allait monter tranquillement. On verra bien c'est ce que ça va donner. Mais nous, au Canada, on est complètement dehors de ce problème-là. On a 100 000 immigrants de trop au Québec, on capote, on vient fou. On dit, ça n'a pas de bon sens. Trudeau, il ne s'occupe pas des frontières. Legault, il n'est pas capable de les intégrer, etc. Eux autres, là, on parle là, de, disons, 15 millions d'immigrants illégaux. C'est énormément de monde. Alors, Trump a promis de régler ça, puis nous autres, on ne comprend pas ça, mais on n'est pas Américains, on n'a pas voté pour ça, puis on n'a pas ce problème-là d'immigration illégale. Mais les Américains, eux, ont voté pour ça. Puis ce qui nous choque, c'est que Trump respecte ses engagements politiques, en réalité. Il respecte ses engagements. Il dit, moi, j'ai promis de sortir des immigrants illégaux, j'ai promis de contrôler l'inflation, j'ai promis d'imposer des tarifs. Il avait parlé de 10% dans la campagne électorale, là, il parle de 25, c'est sûr que c'est pas la même affaire, mais il reste que ce gars-là a dit, moi, je veux créer des jobs America First, je veux contrôler l'immigration, je veux sortir du pays des immigrants illégaux, surtout les criminels. Puis il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, puis ça nous choque parce qu'on est tellement habitués au Canada d'avoir des gouvernements qui promettent puis qui livrent pas. Nous autres, notre tradition, c'est des gouvernements qui livrent pas, contre qui on chiale. Les Américains ont décidé d'élire un président qui respecte ses engagements. Ça nous surprend, mais il faut vivre avec. C'est les Américains qui ont voté pour ça, puis c'est la démocratie.
Est-ce que vous avez vu passer ça aux États-Unis, comment on appelle maintenant le golfe du Mexique?
Le Golfe d'Amérique.
Le golfe de l'Amérique. Non, non, c'est juste incroyable. Puis comme vous l'avez dit, Trump travaille pour les Américains, il travaille pas pour les Canadiens. Que pensez-vous de Chrystia Freeland puis Mark Carney qui essaie le plus possible de se distancer de Justin Trudeau? J'entendais Mark Carney en fin de semaine qui parlait de la taxe, fameuse taxe carbone, comme quoi il allait l'abolir. Puis je trouve ça particulier parce que Chrystia Freeland a mentionné à peu près la même affaire. Pourquoi avant c'était bon la taxe carbone, puis ces gens-là ont signé pour? Puis en passant, quand on a dit que Mark Carney était à l'extérieur du gouvernement, vous avez entièrement raison, mais pour ce qui est de la gestion de la pandémie, il y avait quelqu'un qui soufflait dans les oreilles de Justin Trudeau, et c'était Mark Carney, et il a fait partie de la super équipe de Justin Trudeau pendant la pandémie. Donc, il est un peu responsable de l'administration Trudeau de ces dernières années. Mais de les voir se distancer comme ça de Justin Trudeau, de voir la vague qui semble être plus grande du côté de Mark Carney, de voir que les Québécois semblent être très intéressés à Mark Carney, parce qu'au départ, ils ne voulaient plus rien savoir de Justin Trudeau, mais là, oh, Justin Trudeau s'en va, on nous met un Mark Carney, semble intéressant. Je suis pas sûr que si on va en élection dans un an, exemple, pas sûr que Poilievre va l'avoir si facile.
Oui, c'est ça. Il y a un sondage qui a été publié vendredi dernier qui démontre que selon les Québécois, Mark Carney serait le meilleur interlocuteur, la meilleure personne pour faire face à Donald Trump. Donc, pour représenter les intérêts du Canada face à Donald Trump dans le contexte des tarifs. Donc, je pense que c'est 28 % des Québécois qui feraient confiance à Carney, puis je pense que c'est 24 ou 25 % qui feraient confiance à Poilievre. Ça m'a beaucoup surpris. Puis la troisième, c'est Mme Freeland. Alors, écoute, moi, je suis bien surpris de ça. Je pense que les Québécois ont la mémoire courte, très courte. Ils voulaient sortir Trudeau avec un sondage d'à peu près 20 % d'opinion favorable, puis là, ils pensent que Carney, qu'ils connaissent à peu près pas, serait le meilleur pour faire face à Trump. Moi, j'attribue ce succès-là à deux choses. D'abord, Carney est le new guy, hein, quand tu as une nouvelle face en politique, on se dit tout le temps, bon, ben lui, il va peut-être faire mieux que les autres. Il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a fait face à un certain nombre de crises dans le cadre de son mandat de gouverneur, notamment les crises, dont on a parlé, la pandémie, tout ça. Et puis, ça a l'air qu'il s'en est assez bien sorti dans sa direction de l'économie canadienne et anglaise. Mais j'attribue aussi le succès de Carney à ce niveau-là au fait que Poilievre n'est pas très présent. On est rendu en février 2025. Depuis décembre, depuis janvier, depuis que M. Trudeau a dit qu'il quittait son poste de premier ministre, mais qui restait en poste jusqu'au moins au mois de mars, lorsque le Parlement va reprendre, je trouve que M. Poilievre est assez absent sur ce qu'il ferait comme premier ministre du Canada face à Donald Trump. Je ne te cacherai pas que j'ai une certaine déception par rapport à ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'entend pas plus que ça. Ce que M. Poilievre devrait faire, à mon avis, c'est dire, si je suis élu premier ministre du Canada au printemps ou à l'été ou à l'automne 2025, voici ce que je vais faire. Voici de quelle façon je vais répondre. Admettons qu'il y a un tarif de 25 %, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à Washington, on rencontre M. Trump. Si M. Poilievre disait, moi, je parle avec les gens de M. Trump, j'ai des contacts avec l'administration américaine parce que je sais qu'il y en a. Il y a certains de ses députés qui ont des liens d'amitié assez serrés avec le vice-président J.D. Vance, notamment. Alors, c'est ça que je pense qu'il devrait faire pour dire, je suis capitaine Canada. Parce que là, c'est Doug Ford, en Ontario, qui est capitaine Canada avec sa casquette, puis qui s'en va en élection, notamment. Qui va être élu probablement assez fort parce qu'il porte bien la casquette de M. Canada. Il y a Daniel Smith dans l'Ouest qui a des contacts avec M. Trump, qui l'a rencontré personnellement au cours des derniers mois avec certains investisseurs, certains hommes publics américains et canadiens qui ont la cote aux États-Unis. Tu as Legault qui rencontre M. Trump à Notre-Dame-de-Paris alors que Trudeau a décidé de ne pas y aller au mois de décembre passé. Et M. Poilievre, je pense que il y a une absence là, qui commence à marquer dans les sondages. Et il va falloir à un moment donné qu'ils disent, c'est moi, Capitaine Canada, voici ce que je vais faire, voici ma stratégie, voici mon plan. J'ai des contacts avec l'économie américaine. Puis si la gang de Donald Trump avait quelques bons mots pour M. Poilievre, en disant, ben on l'a contacté, on a des vues politiques qui sont différentes, mais qui sont quand même plus similaires que celles que qu'ont les libéraux au Canada avec M. Carney ou avec Mme Freeland, ça pourrait peut-être aider sa cote. Il va falloir à un moment donné qu'ils nous disent, qu'ils nous montrent qu'il est capitaine Canada pour renverser cette vapeur-là, parce que moi, personnellement, je pense que le mieux placé pour faire face au président Trump, c'est M. Poilievre, de par sa philosophie, la philosophie de droite, la philosophie conservatrice. À mon avis, ça va être beaucoup plus facile pour nous de travailler avec M. Poilievre qu'avec un premier ministre de gauche comme Carney ou Freeland, mais il va falloir que Poilievre, à un moment donné, mette le pied à terre et dire, voici c'est quoi mon plan, parce que là, le plan, on ne sait pas où ce qu'il est, puis non seulement on n'a pas de plan, mais on n'a pas de personne, puis M. Poilievre ne parle pas de ça dans l'actualité. Et là, ça fait certainement là, un mois et demi qu'on attend qu'il nous présente quelque chose. Et là, ben, les sondages favorisent M. Carney, ce n'est pas normal, à mon avis.
Oui, effectivement. Fait que je ne serais pas surpris si aux prochaines élections, on a un parti politique libéral minoritaire. Ça me fait peur. En même temps, j'aurais aimé ça passer à autre chose, avoir une droite économique pour les prochaines années avec le géant orange qui est de l'autre côté. Mais de voir les sondages là, qui favorisent au Québec, du moins, Mark Carney, c'est très inquiétant. C'est très
Mais ça
inquiétant.
dépend de ce qui se passe aussi. L'Ontario est très bleu, très conservatrice. L'Ouest, c'est bien évident. Les Maritimes aussi, de plus en plus. Mais le sondage de la semaine dernière nous disait là, que 28 % des Québécois disaient que Carney était le mieux placé par rapport à 24 ou 25 % pour Poilievre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble ailleurs, parce que le sondage ne parlait que du Québec. Je ne sais pas à quoi ça ressemble ailleurs. Je ne sais pas dans quelle mesure Carney est considéré comme étant le meilleur pour faire face à Trump, parce qu'à mon avis, ça va être la question de l'urne, ça va être la question de l'élection fondamentale. La question de l'élection, ça ne sera pas la taxe carbone, ça l'était au mois de novembre, mais là, ça ne l'est plus, parce que tout le monde est d'accord pour l'abolir ou la transformer radicalement. Alors, même chez les Anglais. Alors, la graine peut changer, puis à mon avis, la question de l'élection fédérale qui s'en vient, ça va être qui parmi les candidats est le mieux placé pour faire face à Donald Trump, qui va donner le meilleur résultat en termes de négociation, qui va limiter les dommages de tarifs éventuels, qui va, non seulement pour les tarifs, mais aussi pour la politique étrangère en général, les frontières, le fentanyl, l'immigration, la défense nationale, qui va être le mieux placé pour les 4 prochaines années, parce que Trump, il va être là pendant 4 ans, lui. Puis s'il n'y a pas aussi, s'il y a un problème de santé, parce qu'il a 77 ans, qui fait en sorte qu'à un moment donné, il n'est plus là, ou peu importe, J.D. Vance, son vice-président, lui, il n'a pas trop de problèmes de santé, puis il a une quarantaine d'années. Fait que lui, il est capable de finir un mandat, puis il va falloir que M. Poilievre monte le ton un peu, puis qu'il nous arrive avec des idées, puis qu'il aborde ce sujet-là dans l'actualité, dans les entrevues qu'il fait, sur la question de savoir en quoi il est le meilleur candidat pour. Parce qu'il est capable de démontrer qu'il va être le meilleur pour discuter, négocier et naviguer à travers l'univers Trump pour les 4 prochaines années, il va être élu. Sinon, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va aller chercher des votes conservateurs, c'est sûr.
Chaque lundi, on a le plaisir d'être en compagnie de Maître Marc Bellemare. On va parler de dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. D'ailleurs, si vous avez des dossiers qui traînent, le SAAC, IVAC, CNESST, ça avance pas à votre goût. Vous avez besoin de consulter. Bellemareavocat.ca, bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Le soir.
Boulevard 102-1.
Tous les vendredis, dans Gravel dans le retour, on a l'immense privilège de recevoir Pierre Houde. Un vrai couteau suisse. Parce que, oui, vous le connaissez pour le hockey puis la F1. Mais il peut aussi vous parler musique, bonne bouffe et vin. Il peut même devenir votre conseiller voyage.
Mais ça a l'air le fun à Salt Lake City.
Il avait l'air d'avoir de l'ambiance.
C'est quoi? On dit « keep Austin weird
oui. ».
Keep Salt Lake weird », mais de la bonne façon, je le dis avec affection. Mais c'est tellement cool. J'ai jamais mais vu autant de barbe à la ZZ Top, Denis. Je te jure, il y en avait 3-4 par restaurant.
Pierre Houde, votre incontournable du vendredi.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, t'attend avec ses 4 extravagances carnavalesques. Du 10 au 13 février, Laser Game Evolution à la Citadelle, gratuit avec effigie. Le 15 février, Nuit Blanche Carnavalesque Pop Underwear, un party pyjama adulte toute la nuit avec plein de surprises. Les 8 et 9 février, descente en rappel sur le Fairmont, le Château Frontenac. Et le 16 février, Graffe ton palais, activité de graffiti sur le palais de bonhomme, gratuit avec effigie. Détails au carnaval.qc.ca.
Pour améliorer votre qualité de vie et vous redonner confiance, les implants dentaires sont la solution. Consultez Dr Steve Bernier, expert en implants dentaires, à Lévis, Québec et à Saint-Georges.
Vous recevez pour le grand match de football de ce week-end, passez faire le plein au comptoir des produits préemportés de Normandin. Pizza, côte levée, pâtonnets de fromage, filets de poulet, cornichons frits et des ailes de poulet. Tout ce que vous avez besoin pour recevoir en grand. Les ailes vous sont aussi offertes en format party de 50 unités pour seulement $34,99. Et vous courez même la chance de gagner des cartes cadeaux pour des articles de la NFL. Une collaboration de Pinty's. Normandin, ça fait plaisir.
Faire mes courses à pied, puis ma marche à pied. Quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. À deux pas des galeries de la capitale et d'un immense boisé, le Quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis étudiante en électricité à l'EMOC. Après mon secondaire, j'ai suivi le train et j'ai poursuivi au niveau collégial et universitaire. Toutefois, la vie m'a amenée à réfléchir. Ce que je voulais vraiment, c'est un emploi qui me stimule autant physiquement que mentalement, avec de bonnes conditions et des possibilités d'avancement. Depuis mon arrivée à l'EMOAC, j'ai trouvé que mon intégration en tant que femme a été vraiment facile et que l'on est vraiment valorisé. C'est pourquoi j'invite tout le monde, autant les femmes, à venir aux portes ouvertes ce samedi 8 février, de 10h à 14h. Pour plus d'infos, va sur ton DEP.ca.
Les magasins Stéréo Plus et Audio Light à Québec liquident un gros surplus d'inventaire et de démos dans plusieurs modèles de télévision, d'appareils audio et d'haut-parleurs. Rendez-vous au 5700 Boulevard des Gradins à côté du Winners. StéréoPlus.com.
Au Québec, il y a du monde qui aime vraiment cuisiner et du monde qui aime juste manger. Il y a ceux qui aiment les valeurs sûres et d'autres qui veulent expérimenter. Il y a des flexitariens, des végétariens, des végétaliens, des pécétariens, des crudivores, des frugivores, ceux qui mangent keto, sans lactose, sans gluten. Il y a ceux qui mangent debout, seuls, assis, couchés. Il y en a même qui mangent à quatre pattes. On peut pas mettre tous les Québécois dans le même panier, mais on peut tous mettre des aliments du Québec dans son panier. Il suffit de repérer les logos Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec.
Le quartier Cartier. Des condos locatifs pour un mode de vie urbain. Des unités 4 et 5,5 sur 2 étages sont disponibles pour votre famille. Grâce à leur fenestration abondante, les condos sont inondés de lumière. Plusieurs commodités sont disponibles dans l'immeuble. Visitez appartementurbain.ca.
Il ne suffit pas de simplement couper un dessert, non. En acceptant la tâche de ta tante Nicole, t'es devenue gardienne de la paix. T'es habitée par un devoir de justice et d'équité. Chaque coup de couteau à travers les montagnes de glaçage à la vanille et les territoires humides à la cerise deviendra une frontière délimitant la juste part de forêt noire de chaque invité. T'as été choisie parce que toi, oui, toi, t'es en mesure de tout régler. T'as ce qu'il faut. Deviens arpenteur géomètre.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Décrochez le temps d'une soirée dans le Vieux-Québec. Ça vous tente? Boulevard 102.1 veut vous en faire profiter. Mercado.fm vous propose un forfait gastronomie et hôtel au cœur du Vieux-Québec, comprenant une nuitée en chambre supérieure pour deux personnes à l'Hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner, une place de stationnement et un chèque cadeau de 100 $ au Bistrot L'Atelier ou au restaurant Ophélia. L'Hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité. Offre limitée, valide jusqu'au 30 avril au mercado.fm.
C'est février sans alcool aux Trois Brasseurs. Relevez le défi avec nos savoureuses bières blondes, sur à la framboise et IPA sans alcool. Pour chaque canette sans alcool ou Coca-Cola vendue, 1 $ sera remis à la fondation de Sober Lab. En février, faites un geste pour vous et pour une bonne cause aux Trois Brasseurs.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures des gros et gros big.
Qui est prêt pour la grande finale?
Moi! Ouais.
Qui est prêt pour le show de la mi-temps?
Encore moi!
Pis qui a acheté la Coors Light?
Toi!
Moi!
Fait que qui va retourner au couche-tard?
C'est moi.
Du 4 au 10 février, c'est le gros week-end du gros match chez Couche-Tard. Profitez des meilleurs prix de l'année sur tous les formats de Coors Light. Parfait pour le gros match avec vos amis. Profitez-en! Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Boulevard! L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Toujours les lundis avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca. On parle de dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, des choses qui nous touchent aussi autour de nous, autour de vous autres. Si vous voulez communiquer avec nous, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021, c'est par texto. Je vous pose une question comme ça, Maître Bellemare, puisque j'ai vu un article qui était franchement intéressant sur Droit Inc., qui parlait des fameux congés de maladie, et on se penche justement sur le projet de loi 68, puis on va revenir avec le projet de loi 68, mais avant, quand j'étais malade, Maître Bellemare, ben, je pouvais avoir un employeur peut-être un peu zélé, honnêtement, moi ça m'est jamais arrivé, mais je pouvais peut-être avoir un employeur un peu zélé qui me dit « Ok, t'es malade, mais ça me prend un billet du médecin, donc là, fallait que je trouve une clinique sans rendez-vous, avec rendez-vous. Fallait que j'aille à l'urgence pour avoir finalement un fameux billet du médecin. » Maintenant, avec ce qu'on veut mettre en place, là, ce ne sera plus nécessaire, ce fameux billet du médecin-là, si on a une grosse grippe.
Oui, c'est ça. Le projet de loi 68, au fond, qui est en vigueur, c'est à partir du 1er janvier 2025, les employeurs ne peuvent plus exiger de leur employé pour une absence de 3 jours ou moins un certificat d'absence. Et ça peut s'appliquer pour 3 absences de 3 jours ou moins sur une période de 12 mois.
Exact.
C'est-à-dire, si tu es absent tous les mois, au mois de janvier, tu as 3 jours d'absence pour maladie. Février, 3 jours d'absence. Mars, 3 jours d'absence. Mais au mois d'avril, l'employeur a le droit de demander un certificat médical, comme il a le droit de le demander en tout temps si l'absence se prolonge au-delà de 3 jours.
C'est sûr.
Mais moi, tu as raison quand tu dis, moi, j'ai eu des...
À partir du 4e jour d'absence, l'employeur peut t'appeler pour dire « Yannick, j'aurais besoin d'un billet du médecin. »
Un billet du médecin qui va couvrir la pathologie, qui va expliquer c'est quoi le bobo. C'est-tu juste une grippe, c'est-tu une gastro? C'est parce que 3 jours, on s'entend que médicalement, ça couvre à peu près toutes les maladies ou les grippes ou les gastro. Là. Tu sais, si tu as une gastro le lundi, tu vas être en phase contamination, en phase active, tu vas mal filer, mais normalement, le jeudi, tu es peut-être capable de retourner travailler. Sinon, on va demander un certificat parce que là, l'employeur a des raisons pour la 4e journée d'absence de s'inquiéter parce que c'est une pathologie, c'est une maladie, c'est une incapacité qui est peut-être plus sévère qu'on pense. Puis là, lui, il doit gérer ses affaires parce que pendant ces 4 jours-là, il est obligé de te faire remplacer, puis si c'est 5, puis si c'est 6, il a le droit de demander des certificats. Mais moi, personnellement, ici au bureau, c'est sûr que c'est pas un gros bureau, c'est pas Power Corporation, ici, Bellemare Avocat, là, mais il reste que quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire, ben je suis malade, je peux pas rentrer, mal à la gorge, mal ci, mal ça, ben j'aime autant qu'ils restent chez eux dans ce temps-là pour pas contaminer tout le monde, les clients, puis les autres employés. Mais moi, j'ai pas tendance à demander des certificats médicaux, même des fois que ça a duré une semaine. J'ai confiance, puis j'ai pas trop de problèmes avec ça, puis je sais pas trop dans quelle mesure ce projet de loi-là est véritablement important au Québec. Est-ce qu'il y a tant que ça des employeurs ils demandent des certificats médicaux pour des absences de 48 heures. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que c'est pas les lions.
Moi, ça m'était arrivé à l'école secondaire. À un moment donné, j'avais fait une intoxication alimentaire, puis pendant 2 jours, j'avais pas pu aller à l'école. Puis on m'avait demandé un billet du médecin. Fait que j'avais dû trouver une clinique, mais nous autres, on n'avait pas de clinique. Au centre-ville de Québec, on allait au CLSC sur Saint-Joseph. Puis là, ben, on se faisait émettre un billet par le médecin comme quoi on avait possiblement eu une intoxication alimentaire. Mais je l'avais trouvé très ordinaire. Quiconque a fait une intoxication alimentaire, la dernière affaire que tu veux, c'est d'aller passer quelques heures d'attente au CLSC pour avoir ton fameux billet comme quoi tu es malade. D'après moi, juste envoyer une photo de toi à ton école secondaire, il l'aurait vu que tu étais malade comme un chien. Ouais. Mais comme employeur, j'ai jamais demandé ça à aucun des employés qui étaient sous ma gouverne dans le temps. Puis comme employé, je me suis jamais fait demander ça, Maître Bellemare, mais je fais partie de la vieille école. Là. Votre génération, à vous autres, même malade, je rentrais pareil.
Oui, c'est ça. Mais des fois, je me demande... bon, c'est sûr que c'est une loi intéressante. Ça fait en sorte que les employeurs, 3 jours et moins, ne pourront pas demander de certificats médicaux. Il peut y avoir des abus. Il peut y avoir des gens qui vont se déclarer malades. Bon, je suis grippé, je n'ai pas dormi de la nuit, puis tout ça. Puis ça peut être un fake aussi. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui vont abuser de ça, comme il y avait déjà des gens qui pouvaient abuser de ça avant. À la limite, il y a peut-être des gens qui ne sont pas si malades que ça qui décident d'aller jouer au golf. Mais là, évidemment, si l'employeur a la preuve que la personne n'était pas malade, bien là, ça peut même être un motif de congédiement, même s'il n'y a pas de certificat, parce qu'on prend pour acquis dans cette loi-là que tu dis la vérité. C'est une loi qui est faite pour les gens honnêtes. C'est pas une loi qui est faite pour les crosseurs puis les gens qui inventent des incapacités pour aller à la chasse puis pour aller jouer au golf ou pour aller en vacances. Alors, c'est sous réserve de ça, mais dans quelle mesure ça s'applique véritablement puis que dans quelle mesure les employeurs québécois sont ceux à coche après une journée pour demander un certificat médical, c'est sûr que ceux qui le font, c'est abusif, puis là, ils n'auront plus le droit de le faire. Puis c'est certain que ça mobilise les médecins, puis pendant que le docteur reçoit Yannick une intoxication alimentaire, ben là, il ne s'occupe pas du monsieur qui a des troubles cardiaques, puis qui a des troubles de cancer, puis qui a des troubles anxieux sévères. Alors, on a des ressources médicales qui sont limitées, même si ça nous coûte un bras, le système de santé. On sait que c'est plus ou moins performant, fait qu'on va laisser les docteurs aux affaires urgentes. Dans ce sens-là, c'est une bonne loi.
Exact. Pour ce qui est des absences familiales, je sais que dans l'article Droit Inc., là, on parle justement des fameuses absences familiales. Ça, c'est-tu encore valide? Est-ce qu'on doit demander un billet du médecin? Ça fonctionne comment?
Bien, la loi 68 ne modifie pas l'obligation de l'employé d'aviser son employeur de son absence le plus vite possible, prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la période de congé. Mais il y a une possibilité pour, si c'est pour s'occuper de raisons familiales, tu vas avoir la possibilité de t'absenter aussi en vertu de cette loi-là. Donc, il y a une disposition à l'effet que c'est possible effectivement de gérer, de s'absenter pour des raisons familiales. Puis encore là, on n'aura pas nécessairement à fournir une preuve ou un certificat médical, mais il faut que ça soit en raison une absence reliée à la garde, la santé, l'éducation de l'enfant, réunion pédagogique à la limite, absence, état de santé d'un membre de la famille, d'une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant. Donc, ce n'est pas nécessairement juste les enfants, ça peut être ton vieux père aussi qui est malade, qui a besoin de toi. Mais c'est une mesure qui est effectivement consacrée par le projet de loi 68 aussi.
Est-ce qu'il y a des changements dans les régimes pour ce qui est des avantages sociaux? Puis de mémoire, je pense que c'est fédéral. Nous, on est fédéral ici à la station. Puis on a à peu près une dizaine de congés de maladies qu'on peut prendre qui sont rémunérés par l'employeur. Ça, y a-t-il des choses qui changent?
Oui, il y a un allègement aussi au niveau des congés, des certificats médicaux. Donc, dès l'entrée en vigueur de la loi, c'est pas encore le cas, par exemple, parce qu'on va normalement, la question qui touche les régimes sociaux, c'est le gouvernement qui va décider quand est-ce que ça va être adopté, mais les assureurs puis tous ceux qui administrent un régime social, là, un régime social, je pense à Desjardins, je pense à des bénévoles, etc., ils pourront plus contraindre un assuré à recevoir des services médicaux pour prétendre au remboursement d'un service ou d'un intervenant du domaine de la santé, un remboursement d'une aide technique comme une canne ou une prothèse auditive. Écoute, de façon générale, c'est une loi qui vient alléger le système de santé qui vient contraindre les employeurs et les assureurs à ne pas exiger des certificats pour des niaiseries finalement. Mais au niveau des programmes sociaux, là, ça va venir, c'est pas encore le cas. On parle d'une entrée en vigueur à la date fixée par le gouvernement, puis ça sera certainement pas avant le mois d'avril 2025, donc ça viendra, puis on en parlera dans d'éventuelles chroniques, mais pour l'instant, c'est les assureurs qui vont éventuellement être assujettis à de nouvelles mesures, plus légères, mais le gouvernement est un petit peu plus... a levé le pied par rapport aux assureurs, par rapport, contrairement à ce qui se passe avec les employeurs.
Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un article qui a été écrit il y a de ça quelques jours, je pense que c'est le 29 janvier dernier. On parlait d'un gars qui avait un problème avec sa piscine, puis en furetant un peu sur Facebook, il est tombé sur un site de gens qui avaient des problèmes avec leur piscine. On parlait de piscine Trévis à l'époque. Et lui a commencé à jaser sur Facebook, il a commencé à donner des conseils à certains individus, et le gars se ramasse avec une amende de 7 500 $ pour avoir donné des conseils juridiques. On peut pas prétendre être avocat quand on ne l'est pas, là.
Oui, puis c'est pas toujours facile parce que il y a des gens qui sont sur le web et qui donnent des conseils et qui disent ben faites ci, faites ça, puis c'est pas toujours clair à savoir si on donne des conseils juridiques. Mais des conseils juridiques, c'est finalement à dire à des gens ben en vertu de la loi, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bon, c'est pas juste de s'adresser à un avocat, mais ils donnent des conseils, puis ils disent « tu peux ou tu peux pas », et « la loi prévoit ci, la loi prévoit ça ». Alors, l'individu en question, il avait donné des conseils sur Facebook à différentes personnes. Il avait même tenté de négocier avec Trévis, qui est un fabricant installateur de piscines, il avait donné des conseils à des gens et à un moment donné, le dossier a pris une certaine tournure. Puis c'est l'émission La Facture qui a rendu ça public. C'est un couple qui avait acheté une piscine en bois de Trévis au coût de 19 000 $. La structure est endommagée. Et puis, il y avait à ce moment-là fait affaire avec ce site-là. Et il y avait... donner des conseils et puis le barreau a pris la chose en main puis finalement cet individu-là a été condamné à payer 7 500 $. Puis il faut comprendre que si demain matin tu dis moi je m'appelle Yannick Marceau puis je vais vous donner des conseils en matière de divorce puis ça s'appelle Yannick Marceau Divorce Inc. et tu t'en vas sur le web et tu donnes des conseils même si c'est pas rémunéré, tu peux être accusé d'avoir, d'être laissé passer pour un avocat, des conseils juridiques. On appelle ça un empiétement sur des services professionnels, de la même façon qu'un massothérapeute ne peut pas s'improviser médecin. Alors, si tu n'es pas avocat, tu ne peux pas donner de conseils, sauf dans des domaines particuliers qui sont stipulés dans la loi du barreau, comme par exemple la CNESST, tu as des syndicats qui peuvent donner des opinions juridiques, des associations. Au niveau du logement, il y a aussi des exceptions, mais de façon générale, tu peux pas... et même si ça aide les gens, puis même si tu as 3 000 followers sur ton site, le barreau a conclu ici que même ce bon samaritain-là, parce qu'il ne reprochait pas d'avoir voulu aider les gens, mais qu'il est allé trop loin, ils ont transmis un avertissement et ils ont obtenu une condamnation de 7 500 $. Et c'est pas exceptionnel. Je me souviens, il y avait une association... à Montréal, qui s'appelait Protector dans les années 2010-2015, qui est devenu Accident Solutions par la suite à Montréal, qui est une firme qui n'était pas composée d'avocats et qui donnait des conseils juridiques. Puis il avait été condamné à payer 30 000 $ parce qu'il s'était fait passer pour des avocats et il avait donné des conseils à des victimes d'accidents d'auto, ce qui relève exclusivement du barreau et des avocats. Alors, il y en a beaucoup des cas d'empiétement comme ça. Puis le barreau veille au grain. Puis s'il y a quelqu'un qui transgresse la loi, bien, il peut être condamné à payer des sommes assez importantes en amende.
C'est particulier parce que même on peut même mettre ça à la radio, dans le médium dans lequel je travaille. T'sais. Bien souvent, quand on jase de dossiers qui impliquent des causes qui sont entendues en cours, bien souvent, on entend « ben moi, je suis pas avocat, mais si j'étais cet individu-là, je ferais telle affaire ». Donc, même dans l'article sur Droit Inc., on mentionne que effectivement, M. Vézina, même s'il a écrit sur le groupe Facebook qu'il n'était pas avocat, c'était pas suffisant.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est toujours délicat et il y aura toujours une preuve à faire. T'sais. Comme par exemple, il note dans l'article M. Lukacs, là, qui vit en Nouvelle-Écosse, qui est un défenseur des droits des passagers aériens au Canada. Il n'est pas avocat, mais il mène des grosses batailles pour améliorer les pratiques. Ça dépend. T'sais. Tu peux toujours dire la loi n'est pas juste. On donne des pinottes aux gens qui peuvent pas prendre leur avion à cause de négligence d'un transporteur aérien. Il faut changer les lois. Tout citoyen peut militer pour changer les lois pour améliorer les systèmes. Mais de là à dire individuellement, monsieur, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça, puis vous devriez poursuivre, puis l'article un tel vous donne... Là, on rentre dans le juridique, dans le personnalisé, puis c'est là qu'on peut considérer comme étant une personne qui se fait passer pour un avocat alors qu'il ne l'est pas. Et la plupart du temps, ces associations-là ont des avocats à leur emploi. Ça en prend juste un, finalement, qui répond au point de vue juridique. Les autres peuvent simplement référer à cet avocat-là qui va pouvoir donner des conseils. Mais il faut être membre du barreau du Québec pour pouvoir conseiller un citoyen sur ses droits et recours.
Voilà. Hey, 12 ans de prison pour un individu qui a abusé de jeunes filles. C'est un article qui est paru le 28 janvier dernier. Puis je voulais vous parler de ça parce que ben, je suis content que le juge ait pris cette décision-là. Juste pour rappeler l'histoire, c'est un responsable d'une agence de mannequins qui a abusé de 14 jeunes victimes, dont des adolescentes, qui n'a pas réussi à obtenir la pitié du juge parce que lui disait « Écoutez, j'ai un cancer incurable, je ne veux pas aller en prison. » Et le juge a dit « Non, excuse-moi, tu vas avoir 12 ans de prison. » Et je trouve cette sentence-là très correcte, même si moi j'en aurais mis plus, là, de voir que l'homme est en fin de vie puis qu'il dit « Non, non, mais écoutez, je suis en fin de vie, je peux pas faire de prison, ça n'a pas de bon sens, c'est pas humain. » Ben, le juge, lui, a pris une excellente décision.
Ben écoute, moi je trouve ça bizarre que les accusés, qui même plaident coupables, puis encore plus s'ils plaident non coupables et qu'ils sont condamnés, viennent nous servir des questions de santé. Edgar Fruitier, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait été condamné pour avoir abusé sexuellement d'un mineur, il est décédé maintenant, avait invoqué aussi ses conditions de santé pour obtenir de meilleures conditions en prison, puis même à la limite d'éviter la prison. Bien, c'est sûr que ça. Il y a des juges qui peuvent tomber dans le panneau puis dire « Ouais, c'est un bon monsieur malgré tout, même si c'est un abuseur sexuel ». Mais je pense que ça pogne de moins en moins, puis je suis content de ça, parce que c'est quoi l'affaire, là? T'es pas obligé d'avoir le cancer pour abuser sexuellement de jeunes mineurs, mais ce gars-là, là, c'est quand même 12 ans de prison, on parle pas de criminalité de bas niveau, là. C'est un gars qui a abusé entre 2006 et 2019 de 14 victimes, et puis un cancer de la prostate, il est quand même assez jeune pour avoir un cancer de la prostate incurable. Mais d'abord, un cancer, ça dépend aussi de la condition de santé. C'est sûr que si le gars est grabataire à l'hôpital avec des tubes dans le nez, peut-être que le juge va être un peu plus ouvert parce qu'il va s'apercevoir que finalement, une peine de prison ne donnerait peut-être pas grand-chose compte tenu qu'il est condamné. Mais ce gars-là, dont on voit la photo sur le Journal de Québec, 14 victimes en 2006-2019, il leur faisait miroiter des bonnes conditions. C'est des jeunes filles qui voulaient devenir mannequins. Et il a été condamné pour les 14. Et puis, il y en a même une qui avait 14 ans, qui a été abusée jusqu'à sa majorité. Fait qu'il profitait de son statut pour exploiter sexuellement des jeunes filles. Le juge a bien fait de tenir son bout parce que c'est tout à fait crapuleux. Et je pense que aujourd'hui c'est assez facile de dire, ben je fais de la pression, puis j'ai tel problème de santé, mais là, si on commence à mettre les problèmes de santé puis à juger les criminels, non pas en fonction de l'offense, mais en fonction de la gravité de leur situation, mais en fonction de leur état de santé, c'est pas nécessairement dans les mesures que le code criminel prévoit pour fixer une peine, non?
Maître Bellemare, je souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs sur les ondes du boulevard 101. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une autre soirée avec Maître Bellemare. Ça a été un plaisir!
Parfait. Bien sûr. Bonne semaine, tout le monde. Merci.
Bye-bye. Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. On se reparle demain à 10h avec Audrey. Salut tout le monde. Bye.
Marceau, le soir.
Du 7 au 16 février, en way dehors avec le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. Graffiti sur le palais de bonhomme, instruments de glace, Lumiglace, Banque Scotia. Un spectacle de son et lumière, quiz, disco silencieuse, sculpture et plus encore. Et nouveauté de cette année, les appels surprises Coureurs des bois. Lorsque ça sonne, entre et découvre une surprise. Déplace-toi aussi gratuitement avec les navettes Vidéotron. Procure-toi ton effigie pour seulement 39 $ plus taxes dans les couches-temps participants ou sur carnaval.qc.ca.
Retrouvez le sourire grâce à l'équipe du Dr Steve Bernier, expert en implants dentaires, maintenant à Lévis, Québec et Saint-Georges. Dr Steve Bernier, la référence pour vos implants dentaires.
Chez Desjardins Assurance, vous pouvez assurer votre auto en ligne. Et c'est super simple.
Ah ouais?
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre enfant faisait des bricolages tous les jours depuis 80 ans.
Regarde, papa.
Ah, oh, t'as fait une fusée. Grande comme la maison.